Rogozin, quand il arrive en 58, quand il arrive en Afrique du Sud, il est derrière, il arrive pour filmer avec une idée très très précise qu'il avait déjà quelques années auparavant, qui est de filmer précisément ce qui pour lui est un choc énorme, c'est la mise en place de l'apartheid en Afrique du Sud 10 ans auparavant. Et c'est quelque chose qui le bouleverse. On pense que ça le bouleverse aussi parce qu'il y a une sorte de rappel aux conditions extrêmes qui ont été vécues pendant l'extermination des Juifs d'Europe sous le nazisme, et que ce sont des conditions d'apartheid, dans le grand sens du terme. Et il va donc chercher à filmer quelque chose qui est absolument impossible à filmer pour un blanc juif étranger en Afrique du Sud, c'est-à-dire le point de vue des Noirs sur cet apartheid, c'est-à-dire comment les Noirs vivent en situation d'apartheid alors qu'ils sont parqués, qu'ils ont des conditions où ils sont, pour avoir un travail, ils ont ce qu'on voit très bien dans le film, c'est obligé pour eux d'avoir un carnet sur lequel on peut pister sans arrêt où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils sont. Et donc il y a comme ça une sorte de société qui s'introduit jusqu'au plus profond de la vie intime de la communauté noire. Et donc il va, bien sûr que pour faire ce film, rien n'est facile. Et premièrement, la première des choses, c'est pour avoir de l'argent pour aller filmer là-bas. C'est pas facile d'en avoir, même s'il vient d'une famille très riche, mais il refuse d'être dans la mouvance familiale. Donc c'est compliqué de trouver de l'argent pour y aller. C'est compliqué de trouver une équipe de tournage, puisqu'il s'agit de filmer de manière clandestine. Et donc de trouver des professionnels qui vont être d'accord pour filmer de cette manière-là. Ça veut dire donc aussi une équipe extrêmement réduite. Alors il va chercher un opérateur en Suisse, 2 opérateurs en Suisse, 1 opérateur en Israël, et qui vont être d'accord pour filmer, pour être pas du tout dans des conditions professionnelles telles que le cinéma le propose auparavant. Et donc il faut inventer un cinéma au moment où on le fabrique. Du coup, il se retrouve dans des conditions plus proches du documentaire, ce qu'il va faire, puisque précisément, il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas de studio, il ne s'agit pas de filmer le studio, il ne s'agit pas de filmer des acteurs, etc. Donc ça, il y a ces conditions-là, et puis il y a quelqu'un qui va jouer dans le film. Il faut que ce soit il faut, encore une fois, en position de clandestin, puisque sans arrêt, les autorités peuvent venir débarquer, interdire le tournage, prendre les pellicules, etc. Donc c'est très important que les personnes qui participent au film n'aillent pas dénoncer le tournage aux autorités. Donc pour toutes ces conditions-là, qui va jouer dans le film? Alors, il s'agit de jouer essentiellement tous les personnages vont être des Noirs qui habitent Sophiatown, qui habitent le township et qui sont engagés en tant que militants anti-apartheid et qui vont être connus, qui se connaissent, Lionel Rogozin rentre en contact avec eux et crée des liens de travail avec ces militants anti-apartheid noirs. Et bien il va beaucoup rester sur place, habiter sur place, il vient avec sa femme, son fils naîtra là, etc. Donc il y a toute une manière d'être présent qui fait qu'aussi les gens vont accepter de travailler malgré ces conditions-là, malgré cette clandestinité-là, et donc aussi les risques que tout le monde court. Les gens vont, donc un certain nombre de personnes vont accepter d'être dans le film et de jouer leur propre rôle. Et après, il y a le problème des Blancs. le problème des Blancs, il n'est pas question aussi de faire appel aux Afrikaners ou bien à ceux qui mettent en place l'apartheid, etc., aux vrais colons blancs. Et là encore, ce seront des Blancs investis, engagés dans la lutte anti-apartheid, qui accepteront de jouer dans le film les méchants Blancs. Et donc le casting peut se monter au fur et à mesure, encore une fois, dans la plus grande clandestinité possible. Ce qui réagit beaucoup sur l'esthétique même du film. Alors l'esthétique même du film, Rogozin dit toujours que dans toutes les interviews qu'il a données, en particulier dans le film qu'a fait son fils sur Comeback Africa, il dit qu'il était mu par deux mouvements, deux filiations importantes pour lui. Celle de Nanook de Flaherty, d'une part, et d'autre part, les films de fiction qui sont des films du néo-réalisme, en particulier Le voleur de bicyclette de Dessica. Quand Rogozin a voulu mettre en place son film, il a d'abord rencontré ses militants anti-apartheid, et c'est avec eux, donc c'est une co-écriture, c'est avec eux qu'ils ils ont mis en place toutes les séquences du film. C'est-à-dire, donc c'est aussi une co-écriture et une co-fabrication. Et c'est donc pour toutes ces raisons-là qu'un blanc étranger arrive à travailler avec des militants anti-apartheid noirs sur l'écriture même du film, et pas simplement sur un témoignage, sur l'écriture. Alors que à l'époque, aucun noir ne pouvait faire du cinéma. Ce n'était pas possible. C'était interdit par la loi. Donc il n'y avait pas de technicien noir, il n'y avait pas d'écrivain noir qui pouvait faire du cinéma, il n'y avait pas de caméraman noir. Donc, donc pour toutes ces raisons-là, c'est un film en acte. C'est un film antiraciste en acte. Et c'est ce qui est important, c'est toujours cette confrontation-là, c'est-à-dire c'est pas un documentaire sur la vie des Noirs dans le township, c'est un film qui s'intéresse à cette friction, à cette relation de soumission, de violence inouïe sur la personne. Et c'est encore, et si vous avez fait attention, on voit très peu de vraies bagarres, on voit des bagarres de noirs entre eux, mais on voit pas en tant que tel la violence, ou très peu. On voit des violences symboliques dans chaque séquence, par contre, c'est-à-dire des humiliations, que ce soit les femmes, les hommes, etc. Et en même temps, ce que je trouve tout à fait passionnant dans ce film, c'est que ce n'est pas que un catalogue de situations, et ce n'est pas non plus une caricature de situation. On trouve Zacharia qui joue ce rôle de paysan qui arrive à la ville et qui découvre de manière extrêmement peut-être naïve, on se demande, en tous les cas avec beaucoup d'ingénuité, en disant qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je fais, etc. Donc il y a ce côté-là, comme s'il n'était pas justement pris dans un corset idéologique, on va dire. Il dit, tiens, voilà comment ça se passe, etc. Il va au-devant, donc ça nous permet à nous, spectateurs, de nous identifier à ce regard-là, puisqu'on est sur le regard de la découverte, de la curiosité, et à chaque fois, un peu comme dans un conte, à chaque fois, il lui arrive quelque chose, mais à chaque fois, il retrouve la possibilité, parce qu'il y a quelqu'un qui lui vient en aide, parce que, etc., etc. Donc il y a toujours sans arrêt quelque chose qui vient ouvrir le destin et puis qui se referme, ouvrir le destin qui se referme, ouvrir le destin qui se referme. Et donc on est comme ça sur nous, on est dans, au fur et à mesure, on devient plus mature avec lui.